Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
À partir de ce soir et jusqu'au 24 mai, vous allez pouvoir assister dans la cour d'honneur des Invalides à Paris au spectacle La Nuit aux Invalides, conçu par Ama Clio. Franck Ferrand reçoit aujourd'hui son concepteur, Bruno Cellier. Bonjour Franck.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Bruno Cellier, pour ses fabuleux spectacles, utilise une technologie de pointe et c'est justement le thème du numéro de mai d'Historia en kiosque à partir d'aujourd'hui. Les technologies au service de l'histoire. Pierre Baron est venu, lui aussi, pour nous en parler. En attendant, je vous propose de revenir sur la saga de cette institution des Invalides qui n'en finira jamais de nous étonner.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question qu'a posée Philippe sur le site internet d'Europe 1 à propos de l'origine de la brosse à dents.
Ah ben la brosse à dents et l'hygiène buccale en général. Là aussi, il est possible que vous soyez surpris. Pour le moment, nous traversons la Seine, direction les Invalides.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
J'ai eu la chance il y a quelques semaines de visiter les combles, les charpentes, alors quand je dis charpentes, absolument monumentales, des Invalides, et de grimper, grâce à ma camarade Clémentine Portier-Kaltenbach, c'est toujours elle qui nous organise ce genre de petites virées extraordinaires, de grimper jusqu'au lanternon des Invalides là-haut, tout à fait au sommet du dôme, et je vous assure que le spectacle est fascinant. Le spectacle de tout ce qu'on peut apercevoir de Paris, bien entendu, de tout le quartier, mais surtout de ce qu'on a là, sous les pieds, cette espèce de petite ville en réduction, toutes ces cours et ces courettes, tous ces bâtiments bien alignés, des Invalides et qu'on ne voit pas, car lorsqu'on est à l'extérieur du monument, on n'a aucune visibilité, on n'a aucune vue de tout ça. C'est extraordinaire. Vous avez la maison des anciens combattants blessés au service de la nation, ce centre médico-chirurgical extraordinaire, hein, qui est spécialisé dans la chirurgie réparatrice des grands Invalides, notamment le traitement de paraplégie et tétraplégie traumatique. On peut dire que la France est pionnière dans ces matières et notamment ce service spécifique des Invalides. 180 patients sont actuellement hébergés, dont plus de 90 pensionnaires permanents. Eh bien, tous ces blessés, si je puis dire, tous ces convalescents sont évidemment les enfants, sont les héritiers de ceux du XVIIe siècle. Et là, il faut revenir sur les origines de cette extraordinaire institution. Des origines qui remontent même avant Louis XIV, ça remonte dès le XVIe siècle. C'est Henri III qui, le premier, a l'idée de constituer comme ça une institution où seront soignés tous les soldats qui ont été gravement blessés au combat. La première maison destinée à recueillir et à abriter ces soldats estropiés, on n'en a pas vraiment la trace puisqu'il faut attendre le successeur d'Henri III, hein, Henri IV, pour voir apparaître la première institution bien connue. C'est celle qui est fondée rue de l'Oursine en 1604 et qui s'appelle la Maison Royale de Charité Chrétienne. Alors, évidemment, Henri IV avait eu une idée extraordinaire. Il avait eu une idée qui était tout à fait conforme d'ailleurs à son tempérament charitable, mais il faut bien dire que sa veuve, Marie de Médicis, va laisser un peu retomber le bébé. Richelieu, tout de même, va reprendre cette idée. Il transforme le château de Bicêtre en hôpital en 1634. On appelle ça la commanderie Saint-Louis. Mais évidemment, c'est Louis XIV qui va donner à ces Invalides la dimension que nous leur connaissons. Déjà, ce qu'il faut vous dire, c'est que dans les débuts du règne de Louis XIV, il y a ce qu'on appelle le droit oblat. C'est Anne Muratori-Philippe qui nous explique ça. Il impose, nous dit-elle, ce droit à certaines abbayes, l'entretien d'un laïc, qu'on appelle donc l'oblat, choisi par le pouvoir royal parmi les militaires blessés ou infirmes incapables de subsister par leurs propres moyens. Le problème, c'est que, évidemment, pour les malheureux blessés qui se retrouvent dans les monastères, c'est pas du tout la vie dont ils avaient rêvé. Vous imaginez, entre une vie de soldat, entre une vie de garnison, et puis ce qui se passe dans un monastère, évidemment, il y a une très grande différence, et un grand nombre de ces convalescents vont bientôt faire le mur. Ils préfèrent souvent se sauver et aller vivre une vie d'expédient, il faut bien le dire. Ils subsistent comme ils peuvent, par leurs propres moyens. Il y a de nombreux déserteurs, en fait, à cause de cette vie monastique. Ils préfèrent survivre de mendicité et de larcin. Alors, Évidemment, Louis XIV ne pouvait se satisfaire longtemps d'une telle idée et il va lancer, après la paix des Pyrénées en 1659, une institution pour les militaires âgés, blessés, infirmes ou inaptes à la guerre. Tout ça va prendre du temps, il va falloir évidemment développer le projet et c'est le 24 mai 1670 seulement que Louis XIV commande à Louvois un hôtel royal d'une grandeur et espace capable d'y recevoir et loger tous les officiers et soldats tant estropiés que vieux et caducs et d'y assurer un fonds suffisant pour leur subsistance et entretènement, nous dit l'édit royal de fondation. Donc 1670, ça c'est la date à retenir dans cette histoire extraordinaire des Invalides. Et vous avez bien entendu que c'est Louvois qui est secrétaire d'État des commandements et finances, c'est Louvois qui va être chargé de ce grand projet. Vous vous rappelez la lutte à l'époque entre Colbert et Louvois. On peut dire que les Invalides sont bien l'enfant, sont bien le bébé de Louvois d'une certaine manière. Le but, c'est que tous les soldats devenus invalides durant leur service soient entretenus. Les Invalides doivent répondre aux fonctions d'hôpital, d'hospice, de caserne et de monastère. Ce qu'il ne faut pas oublier, car la dimension religieuse de cette institution va être constamment présente et même très importante. C'est une institution qui est exempte d'impôts d'emblée, qui sera administrée par un gouverneur représentant le secrétaire d'État à la guerre, qui se trouvera alors dans un endroit très particulier. On est en dehors du Paris de l'époque, on est dans ce qui est la banlieue campagnarde du Paris de l'époque, entre le faubourg Saint-Germain et le petit village du Gros Caillou, au bord de la Seine, dans ce qu'on appelle la plaine de Grenelle. Au début du XVIIe siècle, la plaine de Grenelle, qui tire son nom de Garenne, avait été un terrain de chasse royal où Louis XIII, encore enfant, allait entraîner ses faucons, nous dit Anne Muratori-Philippe. Vers l'actuelle avenue de Breteuil s'étendait alors une magnifique forêt de châtaigniers. Elle aurait d'ailleurs disparu par la faute des Invalides, engloutie cette forêt dans la construction de la charpente de la nef de Saint-Louis des Invalides. Quand on lance un projet de la taille de celui des Invalides, vous imaginez bien qu'évidemment, on prend toutes sortes de précautions. Il y a un appel d'offres déjà à l'époque, même si on est au XVIIe siècle, tout est déjà très administré. On s'assure que tout le cahier des charges, comme nous dirions nous aujourd'hui, sera scrupuleusement observé. On choisit également le bon architecte. En l'occurrence, c'est un architecte du roi. Il est architecte du roi depuis une dizaine d'années, depuis 1663 qui est choisi. C'est Libéral Bruant. Il vient d'achever à l'époque l'hospice de la Salpêtrière et on se dit que l'expérience qu'il a acquise à la Salpêtrière devrait pouvoir lui être utile dans la construction, dans les travaux qu'il mène sur les Invalides. Alors, il va s'inspirer des hôpitaux existants, non seulement de la Salpêtrière, mais également de l'hospice des Incurables, également de l'hospice Saint-Louis. Il va s'inspirer surtout, et je vous prie de croire que lorsqu'on est en haut, qu'on observe, j'allais dire, les Invalides vus du ciel et qu'on voit leur plan en forme de grille, comme ça, avec toutes ces cours bien alignées, avec ces grands bâtiments rectilignes, ça ne peut que faire penser à un autre édifice européen très célèbre, c'est le palais monastère de l'Escurial, à côté de Madrid. Évidemment que Libéral Bruant, dans les plans qu'il va livrer, s'est inspiré de l'Escurial, ça c'est une certitude. Grand monastère qui avait été à la fois palais royal et monastère conçu pour Philippe II d'Espagne, bien entendu. Alors, avant même la construction des Invalides, Louis XIV se charge de prendre en considération les anciens combattants et les premiers de ces Invalides, de tous ces blessés, de tout ce qu'on appellera plus tard les gueules cassées qu'on a ramassées sur les champs de bataille des guerres de Louis XIV, vont être dans un premier temps rassemblés dans une grande maison louée à Monsieur Derval, rue du Cherche-Midi, dans le faubourg Saint-Germain. On n'est pas très loin de la plaine de Grenelle et de l'endroit où, un jour, va s'ériger le nouvel hôtel royal des Invalides. Évidemment, vous allez me dire, tous les blessés, non pas tous. Pour pouvoir entrer aux Invalides, il fallait répondre à un certain nombre de critères très précis. N'était pas éligible à cet hospice n'importe qui, bien entendu. Il fallait pouvoir justifier d'un certain nombre d'années de service. Il fallait pouvoir justifier d'une blessure ou d'une maladie incurable contractée au combat. Bref, il y avait toutes sortes de critères, bien entendu, ce qui restreignait considérablement le nombre des bénéficiaires, évidemment. La première pierre du nouvel hôtel, elle est posée par Louis XIV, bien entendu, le 30 novembre 1671. Et là, c'est parti pour 3 ans de travaux avec des matériaux qui arrivent, c'est de la pierre de Creil en grande partie, qui arrivent par voie fluviale, par la Seine. On débarque ces matériaux dans un port qui a été aménagé pour l'occasion. On va créer la grande chaussée de l'hôtel, qui est appelée également la rue du Pré, qui donc est ce futur boulevard des Invalides, et qui va conduire aux portes de l'hôtel des Invalides. Entre, si vous voulez, c'est le boulevard entre les portes de l'hôtel et ce qui est aujourd'hui l'éculé du pont Alexandre III, tout simplement, qui était donc le débarcadère et le port pour les matériaux. On travaille d'arrache-pied, j'allais dire nuit et jour, pendant 3 ans. Et en octobre 1674, l'hôtel est livré. Louis XIV accueille en compagnie de Louvois les premiers invalides, ainsi que leur gouverneur. Il faut imaginer l'émotion, hein, tant du côté du roi, bien sûr, que du côté des vétérans, dont certains ne peuvent retenir leurs larmes. Voilà ce que nous dit Anne Muratori-Philippe. C'est alors que près d'un millier d'invalides, partis de leur hospice de la rue du Cherche-Midi, donc, débouchent sur l'esplanade. Deux d'entre eux, presque centenaires, survivants des batailles d'Arc et d'Ivry. Arc et Ivry, ça nous ramène au temps d'Henri IV, bien entendu, mènent ce cortège hétéroclite où les soldats mutilés de la guerre de 30 ans côtoient les rescapés de la campagne des Flandres. Jeunes et vieux, estropiés et malades, qui symbolisent à leur manière la gloire militaire du royaume de France, émus aux larmes par ce monarque venu les accueillir aux portes de la ville qu'il fait édifier pour leurs vieux jours. Un sergent mutilé prend alors la parole au nom de ses camarades pour témoigner leur reconnaissance à tous au roi Louis XIV. Louis XIV qui lui aussi est attendri, nous dit Anne Muratori-Philippe, aussi attendri que ses vieux soldats, bouleversé mais ravi, car il vient d'atteindre son premier objectif. Il peut regagner en paix son château de Saint-Germain sous les acclamations de ses vétérans guerriers. La plus grande pensée de son règne, selon sa propre définition des Invalides, est en bonne voie. En bonne voie parce que, pour l'instant, on a terminé les chambrées, si je puis dire, on a terminé les bâtiments pour accueillir les Invalides eux-mêmes, c'est ce qu'on a construit en premier, mais reste à bâtir l'église. En attendant, d'ailleurs, les messes seront célébrées dans la grande salle située au-dessus du porche d'honneur. Cette église, elle est très particulière parce qu'il faut qu'elle puisse servir à la fois aux soldats d'un côté et au roi de l'autre. Bruant, donc libéral Bruant, qui a dressé les plans initiaux, n'est pas très disponible. Il faut vous dire qu'il a été, et ça c'est la vieille rivalité entre les deux ministres, il a été détourné par Colbert pour mener de grands travaux de ponts et chaussées, tout le rétablissement des ponts et chaussées, ce qui fait que Louvois s'impatiente et que finalement, là d'attendre, Louvois va s'adresser à un jeune architecte de 30 ans, qui est le petit-neveu du grand François Mansart, c'est Jules Ardouin Mansart, et en un mois seulement, Jules Ardouin Mansart va remettre des plans définitifs pour une église. Alors, il a gardé les plans de libéral Bruant pour l'église des soldats, du côté de la cour d'honneur, et puis de l'autre côté, il décide de supprimer tout le chœur qui avait été prévu par libéral Bruant et de créer une sorte d'imposante croix grecque couverte à la croisée par une immense coupole. C'est la croix que nous connaissons, c'est la coupole que nous connaissons, et c'est là qu'un jour viendront s'installer les restes de Napoléon Ier, si tant est que ce soit bien les restes de Napoléon Ier qui sont là, admettons que oui, en tout cas c'est la coupole des Invalides qui va naître d'un trait de crayon rapide et très assuré de Jules Ardouin Mansart. À partir de là, on peut dire que les Invalides ont trouvé leur plan définitif.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire continue sur Europe 1 et nous retrouvons tout de suite Franck Ferrand pour la suite de son récit sur les Invalides.
Les travaux ont donc repris en novembre 1676. Louvois fait tout pour garder le secret du projet de Mansart, cette espèce d'extraordinaire croix grecque avec cette grande coupole. D'ailleurs, cette obsession du secret chez Louvois va poser un certain nombre de problèmes sur le chantier lui-même. Que le ministre visite chaque semaine ce chantier, il grimpe sur les échafaudages, on le voit sanctionner déjà les pensionnaires indisciplinés, parce qu'encore une fois, les pensionnaires sont déjà là, à pied d'œuvre. Il presse les choses le plus qu'il peut, Louvois. Peut-être qu'il sent ce qui va arriver. Et ce qui va arriver, c'est sa propre mort, puisqu'il meurt en juillet 1691, dans des conditions extrêmement mystérieuses, d'ailleurs, et qui justifieraient une émission à part entière. Mais on la fera un jour, cette émission sur la mort de Louvois. Promis, c'est assez passionnant. D'ailleurs, à sa mort, la famille demande à Louis XIV l'autorisation d'inhumer Louvois dans son grand œuvre, aux Invalides. Même l'autorisation est accordée, sauf que le roi ne libère pas les crédits pour fabriquer le mausolée de Louvois. Et qu'en 1699, la famille de Guerlas décide de transférer le corps en l'église du couvent des Capucines de la rue Saint-Honoré. Alors il y aura un petit clin d'œil sur la présence de Louvois aux Invalides, mais j'en parlerai tout à l'heure avec Bruno Cellier. Le roi, en attendant, se rend régulièrement aux Invalides. Par exemple, ce 14 juillet, ça ne s'invente pas, hein, à l'époque ça ne voulait rien dire le 14 juillet. Ce 14 juillet 1706, Louis XIV vient lui-même en visite. Il examine le pain et les viandes qui sont servies aux tables des officiers et des soldats. Il passe par l'apothicairerie, il visite l'infirmerie, il va au chevet des soldats. Il va même se rendre compte de la relative bonne santé d'un invalide de 106 ans. Ça lui donne de l'espoir à Louis XIV, qui est déjà un peu âgé, mais qui est loin des 106 ans, bien entendu. Cette visite très complète va servir de modèle à toutes les visites royales qui auront lieu par la suite aux Invalides. La construction est achevée dans la foulée, hein, d'ailleurs, dès le 28 août 1706. Et là, on voit de nouveau Louis XIV accompagné du dauphin, des ducs de Bourgogne et de Berry, inaugurer l'église royale consacrée à Saint-Louis, devant une foule énorme, devant les 600 Invalides qui sont là, rangés en formation de bataille, bien entendu, chacun armé d'une pique où flotte un drapeau, on dit une flamme. Ils sont tous là. Et c'est Hardouin Mansart lui-même qui remet la clé, hein, symbole de la fin des travaux. « Sire, j'ai l'honneur de déposer aux pieds de votre majesté la clé de ce temple sacré, dit-il, temple sacré que votre piété a fait élever à la gloire de Dieu. Heureux si ce travail peut répondre à la haute idée que votre majesté m'en a donnée et à ses sages conseils. Ce superbe monument de votre religion marquera à la postérité la plus reculée la grandeur de votre règne. » Et c'est vrai que finalement, c'est peut-être ce qu'il reste de plus beau, de plus grand, de plus noble du règne de Louis XIV que cette extraordinaire institution des Invalides avec son dôme gigantesque en partie doré, 12 kilos d'or fin sous forme évidemment de feuilles d'or pour arriver à dorer ce dôme qui a été constamment redoré, hein, en 1807, en 1830, en 1839, en 1937, sauf que en 1937 ça avait fini par se patiner et un peu trop, même à partir des années 1960 il restait quasiment plus rien de l'or sur le dôme, et c'est, vous le savez, en 1989 qu'on nous a redoré ce dôme. Je me rappelle, moi ça m'avait complètement sidéré, hein. Ça transfigurait littéralement non seulement le monument, l'édifice lui-même, mais tout le quartier, disons-le. Donc, en ce 28 août 1706, c'est la première fois que retentit le Te Deum et l'Exaudiat dans l'église Saint-Louis, sous cette coupole extraordinaire qui retentit des chants de quatre chœurs, plus de 150 choristes qui ont été perchés dans des tribunes spécialement installées là. Hardouin Mansart peut être fier d'avoir conduit son grand œuvre presque à terme. Je dis presque à terme parce qu'il meurt en 1708 avant d'être allé tout à fait au bout. Alors, qui sont ces Invalides qui bénéficient d'un aussi bel hospice? Ce sont des gens qui, à partir de 1710 en tout cas, ont servi le pays pendant au moins 20 ans et qui sont, je cite l'édit royal, absolument hors d'état de servir, soit par sa trop grande vieillesse ou caducité, soit par ses blessures ou maladies incurables. On arrive quand même à en trouver un certain nombre. Il pourra y avoir au total, et notamment sous le règne de Louis XV, jusqu'à 6000 Invalides. Tout invalide entrant à l'hôtel devait être séquestré dehors 40 jours pendant lesquels les prêtres étaient chargés de l'instruire de religion. Et ça, c'est très important, ça fait partie du règlement intérieur de la maison. On y assiste à la messe, on y mène une vie religieuse. Il y a presque quelque chose encore du fameux monastère qui faisait si peur autrefois aux blessés, aux champs d'honneur et qui se retrouvait, vous savez, par la loi de l'oblat, qui se retrouvait dans les vieux monastères. Néanmoins, c'est tout confort, si je puis dire. 300 lits individuels. Dites-vous qu'à l'époque, les soldats avaient l'habitude d'être jusqu'à 2 et 3 par couche. 300 lits individuels dans des chambres où l'on ne dort qu'à 4 ou 6, parfois même 2 ou 3, dans des chambres qui sont chauffées l'hiver. Vous avez 37 sœurs aidées par des fratères, par des soldats infirmiers, qui sont là pour aider, pour s'occuper des invalides et pour leur concocter toutes sortes de médicaments, de drogues, de sirop, de tisanes, de confitures, de confiserie. La propreté, chose essentielle, nous dit François le maçon d'Ormois, premier des gouverneurs des Invalides, la propreté règne partout, dans toutes les chambres, dans toutes les parties communes. C'est une sorte d'institution modèle à l'échelle de l'Europe et du monde qui est installée là, avec des journées rythmées par la messe, rythmée par les repas. Pour vous donner un exemple, en 1724, on aura consommé aux Invalides 1 million de poules, 3000 poules, 1100 chapons, 66 000 livres de fromage, 36 000 livres de harengs, 2700 livres d'huile de baleine. Bref, les soldats qui ont survécu et qui ont pu entrer aux Invalides, vous l'avez compris, ne sont pas malheureux. Des Invalides, nous allons passer au grand spectacle qui est actuellement présenté dans cet édifice extraordinaire. Ça s'appelle La Nuit aux Invalides. Son concepteur Bruno Cellier est avec nous. Bonjour Bruno Cellier et bonjour Pierre Baron. Nous allons parler avec vous, Pierre, de la technologie et notamment des technologies 3D au service de l'histoire.
Franck Ferrand reçoit d'ailleurs Bruno Cellier, directeur artistique et metteur en scène de ce spectacle, et Pierre Baron, directeur de la rédaction du magazine Historia.
Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être ici. Alors, ces Invalides, vous, on peut dire que vous les connaissez par cœur, Bruno Cellier, puisque vous les avez fait parler depuis 3 ans.
Alors, la Nuit aux Invalides, oui, je commence à connaître le monument, mais on croit le connaître. Et en fait, on découvre, y compris encore cette année, en préparant, en créant les nouvelles scènes, j'ai découvert de nouveaux aspects et qui ont renforcé l'affection que j'ai pour ce monument.
Alors, on voit d'ailleurs dans le spectacle l'évocation de Louvois, puisque c'est un des chiens assis qui se trouve donc sur les combles de la cour d'honneur des Invalides. Et vous faites parler la fenêtre, si je puis dire, et vous évoquez justement ce jeu de mots sur le loup qui voit, Louvois, ce clin d'œil au constructeur des Invalides. Alors, c'est un personnage qui a très mauvaise réputation, je le disais, dans l'histoire de France. Et en même temps, c'est un peu à sa persévérance, à son opiniâtreté, comme disait Louis XIV lui-même, qu'on doit ce monument. Donc, il est un peu le père des lieux. D'une certaine manière.
C'est vrai que pour faire le pendant un peu du sac du Palatinat, on peut dire que les Invalides sont en partie le fruit de la surveillance de Louvois. Alors c'est une tradition orale, infirmée par aucune source, mais voilà, Louvois était très présent sur le chantier et son l'aspect tatillon de son contrôle a fait que on ne sait qui, des tailleurs de pierre, il fallait sûrement l'aval quand même du maître de chantier, ont voulu laisser dans la pierre cette trace de la surveillance tatillonne de ce grand ministre.
Alors l'histoire des Invalides, ce n'est pas seulement l'histoire des pauvres soldats mutilés, ce n'est pas seulement non plus l'histoire de la monarchie française, c'est un peu l'histoire de tous les régimes. Ce que vous montrez dans ce spectacle, La Nuit aux Invalides, c'est le creuset de l'histoire de France, en quelque sorte, et en action.
Et ça m'a été encore plus confirmé cette année. Parfois, il y a comme ça, il y a des scènes qui viennent d'un coup, d'un seul. Je commençais à relire certains articles, certains ouvrages sur le sujet, et je tombe sur le 17 mars 2008, l'hommage national rendu à Lazare Ponticelli, le dernier poilu. Et je vois dans les personnes présentes, il y avait donc le président de la République, ce qui est tout à fait normal. Il y avait le comte de Paris, représentant en quelque sorte la généalogie des rois, même si c'est la branche Orléans. Et avec le personnage de l'empereur, alors figé dans sa statue minérale, dans sa statue métallique. Mais en quelque sorte ce jour-là, 2000 ans d'histoire de France rendait hommage à l'un de ses enfants. Et dans ce 17 mars, tous les Invalides déjà étaient là.
Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion, moi, d'assister à des réceptions que donnait alors l'autre prétendant au trône de France, le prince Louis de Bourbon. J'ai eu l'occasion d'assister à la fameuse messe du 5 mai pour l'anniversaire de la mort de Napoléon, où la famille impériale figure au grand complet, avec les honneurs de la garde républicaine que prête le président de la République, si je puis dire, pour l'occasion. C'est quand même extraordinaire. Et j'avais dit, je me rappelle, au gouverneur de l'époque, que j'étais un peu étonné de toutes ces manifestations tantôt royale, tantôt impériale et tantôt républicaine. Il m'avait dit, mais les Invalides, c'est tout ça à la fois. En fait, hein, et c'est ce que vous montrez et vous les faites vivre, ces Invalides, parce qu'il faut, nous avions fait une émission l'année dernière pour expliquer à nos auditeurs à quel point vous faites vibrer les parois des monuments. On a l'impression d'un seul coup que les petites colonnes s'en vont en promenade et en marche deux par deux. C'est tout à fait extraordinaire ce qui se passe grâce à la magie de la technique. Vous utilisez des technologies peut-être parmi les plus sophistiquées du monde pour ce spectacle.
Elles sont au service, vous l'avez fort bien dit, elles sont au service de l'histoire et du monument. Le grand enjeu, alors avant de venir à la technologie, c'est de, je pense que si le spectacle a rencontré son succès, c'est que j'ai voulu rester authentique et rester fidèle au monument. Et dans la mesure où les technologies servent le monument, qui est la vedette un peu de la soirée, ça marche. Je pense que toutes les personnes qui rentrent dans la cour d'honneur, qui rentrent dans les Invalides, le monument les impressionne dans le sens fort du terme. Il y a une espèce de pacte d'unité. Quand on rentre aux Invalides, Il y a certaines barrières, certaines différences qui tombent et on est un peu dans une forme de maison d'histoire de France qui rend le lieu particulièrement, c'est vrai, magique.
Mais là, Pierre Baron, on est au cœur de votre sujet en fait. Ce sont les technologies au service du patrimoine.
Technologies au service de l'histoire. Elles peuvent prendre la forme d'un spectacle. Elles peuvent prendre aussi la forme d'un univers, tout simplement avec des images dans lesquelles on rentre et qu'on ne voit plus, dont on n'est plus spectateur, on n'est plus dans une logique cinématographique, on est immergé dans l'image.
C'est ça.
Et c'est ça qui nous a fascinés dans ce dossier.
Quand on regarde, moi pour avoir vu plusieurs fois vos spectacles, Bruno, et c'est vrai que c'est toujours un ravissement, hein, le mot n'est... On ne sait pas quel terme employer, évidemment, on est à la radio, mais c'est très spectaculaire, c'est très fort. Et quand on jette un œil au public, qui est là, que ce soit dans la cour du Palais des Papes à Avignon, ou là, dans la cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides, on voit à quel point les gens ouvrent grand les yeux, sont transportés. On a l'impression d'une communion avec le lieu. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a un lien qui se tisse avec le passé du lieu. Vous êtes doué pour ça, parce qu'évidemment, ça suppose tout un scénario, hein, toute une écriture.
Oui, c'est l'amour de l'histoire, d'abord. C'est l'exigence de ce genre de projet. Et je me rappelle une anecdote très touchante l'année dernière. Je vais dans la foule pour demander un peu l'avis, en cherchant des personnes qui n'ont pas apprécié, parce que les critiques font avancer. Et je tombe sur quelques Espagnols. Et donc là, l'obstacle de la langue, je ne parle pas espagnol. Mais l'une des jeunes femmes parlait français, m'a dit, alors je lui dis, vous avez compris le spectacle, vous avez aimé, nous avons beaucoup aimé. Nous n'avons pas compris les mots, nous avons compris le sens des mots. Et nous avons tout à fait apprécié et ce que vous aviez voulu dire et votre amour pour la France dans le spectacle. Cette exigence, pour pas qu'elle soit l'effet, alors on entend les gens dire l'effet waouh, c'est-à-dire l'admiration superficielle générée par la technologie, mais que cette technologie, elle ouvre une porte pour après laisser une trace dans
C'est en deux temps.
Profonde.
Oui, c'est dirais que voilà. D'ailleurs, on voit très bien ça. Dans les premières minutes, il y a vraiment le fameux effet waouh. Ça, c'est clair. Les gens sont complètement éberlués par ce qu'ils ont sous les yeux. Et puis, effectivement, on finit pas. Sinon par s'habituer, mais on finit par apprivoiser cette incroyable technologie. Et puis au bout d'un moment, effectivement, on s'intéresse à ce que vous racontez, à l'histoire qui est racontée. En l'occurrence, c'est pas seulement l'histoire des Invalides, c'est bien l'histoire de la France que vous mettez en scène.
Oui, et encore plus
à
cette année...
À trois grands personnages, voilà, les... Louis XIV, Napoléon et le général de Gaulle. Vous n'avez pas choisi les plus inconnus, en l'occurrence.
Non, mais quelque part, c'est le monument qu'il a choisi pour moi. Et puis cette année, j'oserais dire un quatrième titan, un peu anonyme. Alors c'est le personnage... un peu de Lazare Ponticelli, qui représente derrière lui eh bien, les 1 million, plus d'un million de soldats français morts au champ d'honneur, parce que ce 17 mars 2008, qui ouvre le spectacle, voilà, les poilus entrent définitivement aux Invalides dans ce panthéon militaire.
Alors, vous avez d'ailleurs un peu allongé le spectacle cette année.
Oui, il y a quasiment plus d'un quart du spectacle qui change, avec les 8-10 minutes nouvelles sont quelque part un condensé des 30 autres minutes. Il y a plus d'action, autant d'émotions, un bel hommage aussi aux nations qui ont combattu auprès de la France, sans agressivité par rapport à l'ennemi de l'époque, parce que c'est la dimension aussi particulière des Invalides. On aborde l'histoire militaire, mais jamais de façon agressive ou revancharde par rapport à... C'est les événements, de façon apaisée, avec émotion, mais la justesse de l'histoire.
Vous, comme moi, Pierre Baron, vous cherchez un moyen de renouveler l'approche de l'histoire, bien entendu. Vous vous dites qu'il faut constamment proposer au public de nouvelles portes vers cette histoire que nous adorons. C'est exactement la mission d'Historia, d'ailleurs, comme c'est la nôtre ici sur Europe 1 tous les jours à 14h. Et est-ce que vous pensez que ces spectacles, qui sont en quelque sorte les lointains et très dignes descendants des sons et lumières des années 50, que ces spectacles sont utiles pour faire aimer l'histoire, pour amener le public vers les monuments ?
Oh, Franck, ils sont bien plus qu'utiles. Ils sont avant-gardistes. Et je pense qu'on y viendra de plus en plus. Vous parliez tout à l'heure de l'effet waouh des jeunes. Mais imaginons qu'un film ne soit fait que d'effets spéciaux, il serait pas bon. Mais imaginons qu'un film où il y ait des effets waouh vous plonge au cœur de l'action et où ce qui s'est passé il y a 200 ans, 300 ans, 500 ans, vous en soyez un personnage, un badaud, un témoin. Vous soyez immergé dans une rue de Paris au Moyen-Âge, immergé sur le plateau de Gizeh en train de vous promener le long des mastabas. L'histoire, elle prend une dimension tout à fait différente. J'ai moi-même assisté à vos spectacles. Le maître mot, c'est d'abord le plaisir. C'est le plaisir qu'on en ressent. Et ce plaisir rend l'histoire extraordinairement vivante. Je reviens à votre anecdote de nos amis espagnols. Il y a un frisson et il y a un ravissement. Et derrière, peut-être que tous les mots ne sont pas captés. Mais dans l'histoire, il y a cette émotion. Et si vous n'êtes pas distancié l'histoire, et c'est ça le sens des technologies, si elles vous permettent d'être dans l'image, dans l'action, là vous prenez, et Franck vous en savez quelque chose, une dimension formidable et de portes nouvelles pour rentrer dans l'histoire.
Alors ça, ce sont les technologies mises au service du spectacle. Et ce que vous faites, Bruno Cellier, c'est du spectacle dans le sens le plus noble qui soit, bien entendu. Il y a là tout l'effet de catharsis dont parlait Aristote. C'est-à-dire qu'on sort de ces soirées, de ces représentations, bouleversées, transformées intérieurement, purifiées d'une certaine manière, pour filer la métaphore de la catharsis, hein, de la purification par l'émotion du spectacle. Bon, ça c'est... Mais au-delà du spectacle, bien sûr, les technologies, toutes ces extraordinaires technologies, permettent à l'histoire d'avancer, parfois de faire des progrès sur le plan même de la recherche, de la compréhension du passé. Elles viennent à l'appui de l'archéologie, etc. C'est le cœur même, c'est le sujet même de ce numéro spécial d'Historia que vous nous proposez, Pierre Baron. Et alors, vous avez eu la bonne camaraderie de l'intituler d'une manière qui nous a plu ici, puisque vous avez appelé ça tout simplement Au cœur de l'histoire.
Trouvons Franck Ferrand et ses invités. Bruno Cellier, directeur artistique et metteur en scène du spectacle La Nuit aux Invalides, spectacle Europe 1 qui débute ce soir. Il est également en compagnie de Pierre Baron, directeur de la rédaction du magazine Historia.
Oui, ce numéro du mois de mai d'Historia propose donc un grand dossier au cœur de l'histoire, les prouesses des images 3D, parce qu'il faut dire que l'essentiel de ce que vous avez fait dans ce travail sur les technologies, Pierre Baron, tourne autour des images 3D. Alors d'abord, disons-le, des images 3D ludiques, puisqu'on était dans le spectacle, passons de façon très douce au jeu. Car
oui, aux jeux vidéo, par exemple.
Ça, c'est une chose extraordinaire. C'est la grande révolution des années que nous sommes en train de vivre. Je suis certain qu'une partie de nos auditeurs n'en ont même pas conscience. Il faut le leur dire tout de même.
Oh, mais leurs enfants, oui. Ça, oui. Je peux vous l'assurer. Et surtout les grands ados. Bien sûr, parce que toute une génération de jeux, y compris avec des sauts technologiques, c'est inouï, quoi, qui se produisent tous les 2-3 ans. Avant, il y avait des découvertes techniques majeures tous les 30 ou 40 ans. Il a fallu quand même un certain temps, une génération, pour passer de la radio à la télévision. Maintenant, on va passer d'une génération de consoles à une autre génération de consoles, avec des progrès fabuleux en l'espace de 2 ans, 3 ans. Donc les jeunes rentrent dans l'histoire parce qu'ils y rentrent en tant que personnages. C'est une façon de théâtraliser. Vous pouvez être un citoyen romain, vous pouvez décider d'être un général contre César ou pour César.
Ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est qu'il y a plusieurs types de jeux. Il y a des jeux tout à fait culturels qui ont été créés. Moi, je me rappelle les tout premiers, on était au milieu des années 90, ouais. C'était d'ailleurs assez stupéfiant. J'ai été un adepte de ça, j'étais beaucoup plus jeune, il faut vous dire. Et donc, ça me fascinait, justement, cette approche-là de l'histoire. C'était des jeux d'une très grande rigueur, presque scientifique. Ça permettait de découvrir les civilisation égyptienne, maya. On se promenait dans Versailles grâce à cet extraordinaire jeu vidéo qui s'appelait Complot à Versailles, hein, où on avait absolument une vision très précise de ce que pouvait être Versailles au milieu des années 1680, etc. Bon. Et puis, peu à peu, sont venus se greffer sur ces premiers jeux qui eux-mêmes se sont raffinés, etc. Les enfants de ces jeux-là, une nouvelle génération où l'on est beaucoup plus proche de ce qu'on pourrait appeler le roman historique, c'est-à-dire que ce sont des personnages non historiques que l'on place dans un contexte et dans un décor historique, et chacun mène l'aventure à sa mesure.
Le progrès, Franck, il est là. Il est exactement comme pour vous chaque jour à Europe 1, ou chaque mois pour moi à Historia, qu'il s'adresse, ces jeux, à des gens qui n'y connaissent rigoureusement rien. Je parle de l'époque. Mais qui, par le jeu, par l'émission, par le journal, vont, sans aucune connaissance préalable, rentrer dans l'époque, rentrer dans une vie quotidienne. C'est ça la prouesse, déjà, de ces jeux-là.
On est bien dans une porte d'entrée d'une certaine manière, Bruno Cellier. Quand vous écrivez vos spectacles, ça vous oblige, pour ne tirer de chaque époque que quelques scènes et que quelques phrases, ça vous oblige à vous immerger complètement et à tout savoir et à être le plus juste et le plus exact possible.
Eh bien, pour reprendre l'image de Pierre Baron, je suis le premier à passer la porte.
Oui, c'est ça, voilà, exactement.
Mais oui, oui.
Vous ouvrez, vous regardez ce qui se passe
voilà,
derrière.
Voilà, et je reste plus ou moins longtemps dans la pièce, dans la période. Mais oui, oui. incontestablement, et c'est l'énorme avantage de pouvoir changer de sujet et de spectacle, c'est qu'à chaque fois on découvre de nouvelles thématiques, de nouveaux spectacles, de nouveaux lieux, de nouveaux personnages, et cette immersion est particulièrement prégnante et efficace chez les jeunes, c'est vrai.
Alors je parlais tout à l'heure de la construction de cet hôtel extraordinaire des Invalides. Grâce aux images de synthèse, il est désormais possible d'expliquer les phases de construction de n'importe quel monument avec une facilité, une limpidité absolument extraordinaire, une efficacité pour être plus exact, tout à fait redoutable. C'est un instrument pédagogique, l'image de synthèse, il faut le dire.
Complètement. Il s'est passé quelque chose d'assez inouï dans l'histoire de l'humanité, allons-y, franchement, sans aucune emphase. C'est que pour la première fois, dans la prestigieuse université d'Harvard aux États-Unis, on prend des étudiants qui sont en cours, en troisième, quatrième année d'égyptologie. Ils vont travailler avec leurs professeurs, mais ils vont pas travailler sur des livres. Voilà le changement. Ils vont travailler sur des images 3D réalisées sur des campagnes de fouilles en numérisation pendant des mois. Et entre le laboratoire en région parisienne qui a émis ces images et Harvard qui détient exactement la même installation informatique, il va y avoir des cours et un enseignement et un enrichissement permanent en fonction des découvertes, Franck, en fonction des hiéroglyphes que l'on découvre, en fonction d'objets, j'insiste, auxquels on n'avait pas accès par les fouilles. Donc c'est une réalité qui n'est plus virtuelle, elle est augmentée. Bien sûr. On prend des objets qu'on retrouve en vrac et les égyptologues, jeunes ou moins jeunes, vont reconstituer des chaises, du mobilier funéraire, etc., etc. Voilà donc, pour la première fois, à ma connaissance, dans l'histoire de l'humanité, qu'un enseignement se fait à 5000 km de distance en échangeant des images qu'on enrichit au fur et à mesure de connaissances nouvelles.
Et puis, à destination du grand public, il y a ces images pédagogiques qui permettent, mieux que n'importe quel long discours, d'expliciter les choses. Pour prendre l'exemple que je connais le mieux, évidemment, celui de Versailles, je regardais cela l'autre jour en feuilletant le très bel ouvrage de Pierre Verlet, qui est un peu la Bible concernant le château de Versailles. C'est un ouvrage qui fait plus de 1000 pages où tout est raconté.
Sur jeu de mots, c'est un monument.
C'est un monument de papier. Bon. Eh bien, on pourrait réduire ce livre presque de la moitié de son volume si l'on avait des images de synthèse, puisque une grande partie des phrases de Pierre Verlet consiste à expliquer avec des termes le changement d'orientation d'un escalier, l'augmentation d'un étage d'une verrière, enfin, etc., etc. À partir du moment où vous pouvez montrer les choses avec ces images de synthèse en trois dimensions et que vous pouvez même faire cette chose inouïe qui est par l'effet de l'architecture dite de cristal, un effet de superposition entre ce que vous avez réellement sous les yeux et ce que vous auriez pu avoir sous les yeux si vous vous étiez trouvé là il y a 100, 200 ou 300 ans, on a envie de dire que c'est tout un discours qui disparaît. Plus besoin de discours, on a l'image.
On a l'image et puis on a la sensation. C'est ce dont on parlait pour votre spectacle. Dans le dossier, on a abordé aussi, vous avez vu, Cluny. Pourquoi ? Parce que être à l'intérieur de Cluny, comme Cluny était à ce moment-là, c'est d'abord une sensation. Ces couleurs qui ont disparu, ces pans entiers de colonnes qui n'existent plus, réapparaissent sous nos yeux, mais pas seulement. C'est-à-dire que le sentiment ou la sensation, pas de la couleur pour la couleur, mais de l'empreinte des lieux, de la spiritualité des lieux, vous revient alors que vous pourrez toujours visiter 600 fois Cluny, ce qui est le cas pour moi, je le dis.
Oui, c'est le
mais vous ne serez pas dans cette
et
totalité.
Pour cause, oui.
Et bien sûr. Voilà pourquoi l'histoire devient extraordinairement vivante.
Et en même temps, quelle responsabilité de la part de ceux qui créent tous ces instruments extraordinaires, parce que évidemment, l'image que vous proposez au public est tellement forte, elle paraît tellement achevée, tellement accomplie dans ces trois dimensions, qu'à partir de là, elle imprègne l'imaginaire de tout un chacun.
Elle imprègne, Franck, et elle le modifie.
Et elle le modifie. Donc c'est une grosse, une lourde responsabilité. Il ne s'agit pas de montrer une chose qui soit fausse, parce qu'elle sera définitivement vue de manière fausse. Vous savez, vous êtes venu m'interviewer pour votre dossier, donc il y a un petit entretien à la fin de ce dossier spécial d'Historia, Pierre Baron. Et ce que je vous disais, c'est que je me méfiais moi aussi de ce genre d'instrument, parce que un peu à la manière de ce qu'on a connu avec les études génétiques et avec l'ADN. Une fois que l'ADN a parlé, on a envie de dire qu'il n'y a plus de débat. C'est comme si une bombe atomique avait explosé, hein, il n'y a plus de débat. Et de la même façon, une fois qu'une image de synthèse a été proposée au public, elle est presque définitive. Et il faut donc qu'elle
l'image,
soit...
L'image, Franck, attention, l'image, Franck. Pas le commentaire de l'historien.
Non, alors voilà.
La technique, oui.
Mais il ne faut pas l'oublier.
Ce que vous montrez, oui. Mais il y a un narrateur. Il y a un récit. Et le récit ne peut être porté que par l'historien.
Mais regardez le cas de la reconstitution faciale, puisque vous revenez sur ce cas très célèbre de la tête d'Henri IV, dont on n'est pas du tout certain aujourd'hui qu'elle soit la vraie tête d'Henri IV. Or, la reconstitution qui a été faite à partir de la momie elle-même, alors là, oui, c'est vraiment la tête d'Henri IV telle qu'on l'a sur tous les portraits, et sauf avec une différence, c'est que là, on a l'impression qu'on pourrait presque lui parler, qu'on pourrait le toucher. C'est très spectaculaire. Il y a eu une polémique encore plus forte il y a quelques moi, avec la reconstitution de la tête de Robespierre à partir d'un masque mortuaire d'ailleurs extrêmement contesté, oui, là encore,
douteux,
oui, encore plus douteux. Et cette tête de Robespierre, entre nous soit dit, moi, me fait beaucoup plus penser à Danton qu'à Robespierre. C'est quand même la limite aussi de cette technologie fabuleuse. Il faut savoir entre quelles mains elle se trouve et à quelle fin, surtout.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mettre, comme on l'a dit, un visage sur un nom, c'est pas exactement rentrer dans l'histoire. Après tout, savoir si Robespierre avait le visage criblé de Vérole ou non n'est pas déterminant dans la connaissance de l'histoire. Mais il ne faut pas s'imaginer que ces techniques ne s'appliquent qu'à des périodes lointaines. Pas du tout. On a fait une reconstitution du port artificiel d'Arromanches, nécessaire pour les Alliés, comme vous le savez, dès les premières heures qui ont suivi le débarquement. Un certain nombre d'objets, Franck, ça s'est passé il y a 70 ans, on est d'accord. Un certain nombre d'objets, des barges, n'existent plus. Je parle des barges de 44. On ne les trouve plus, y compris chez des clubs de collectionneurs. Il a donc fallu numériser les objets, que des ingénieurs les reconstituent. Ces objets-là, on ne parle pas du Moyen-Âge, on parle de 1944. Pour qu'ils réexistent, il a fallu les recréer, et que pour que des jeunes, aujourd'hui, puissent les voir en réalité, il a bien fallu une reconstitution. Là, il y a un magnifique travail historique,
oui,
même
sûr,
s'il
oui.
est mené par des scientifiques. Il y a un fabuleux travail pour les historiens, parce que nous protégeons, d'une certaine manière, les objets tels qu'on ne peut plus les voir.
Mais oui. Espérons seulement qu'un jour, on ne se contentera pas de l'image 3D au détriment des vestiges eux-mêmes. Il ne faudrait pas que certains se sentent exonérés du travail de restauration et d'entretien.
Et du récit qui va avec.
Et du récit qui va avec. Mais ça, c'est notre boulot, si je puis dire. D'une manière générale, on peut dire que tous ces instruments technologiques, qu'ils soient pédagogiques ou qu'ils soient mis au service du spectacle, sont des moyens de, vous dites, vous, Pierre Baron, de doper l'imaginaire et de donner envie aux gens. Finalement, les uns et les autres, ce que nous essayons de faire, c'est donner envie aux gens d'aller en savoir davantage. À partir du moment où on leur raconte les Invalides, où ils sont plongés dans ces siècles d'histoire, eh bien, ils peuvent avoir envie d'en savoir eux-mêmes un peu plus, de creuser la question et d'aller plus loin. C'est ce qu'on peut leur souhaiter à tous, bien entendu. Le dossier donc du dernier numéro d'Historia en kiosque, c'est celui de mai là, 2014, s'intitule « Au cœur de l'histoire, les prouesses des images 3D ». Vous pouvez le trouver partout, bien entendu. Et puis, jusqu'au 24 mai, précipitez-vous aux Invalides pour assister. Il y a deux séances par jour, hein, il faut le dire.
21h30 et 22h30.
21h30 et 22h30 tous les jours. C'est une plongée dans l'histoire des Invalides, et ça s'appelle non seulement des Invalides, mais on pourrait même dire dans l'histoire de France, hein, dans ce qu'il y a d'épopée, de saga dans notre histoire nationale. Et ça s'appelle La Nuit aux Invalides, et c'est signé évidemment Bruno Cellier. Merci beaucoup à tous les deux.
Restez avec nous. Franck Ferrand revient sur l'origine de l'hygiène buccale, et c'est dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, c'est Camille qui nous envoie sa question sur europe1.fr et qui s'interroge sur l'origine de l'hygiène buccale, Franck.
Alors voilà justement une question qu'on aurait pu poser aux Invalides du temps de Louis XIV. Hein, l'histoire de cette hygiène buccale, vous savez qu'à l'époque, c'était pas très répandu. Hein. Néanmoins, on possède, et c'est l'archéologie qui nous renseigne, un certain nombre de cure-dents en bois, en poils de porc épique ou de... en épines hein, de porc épique ou en plumes, qui datent de l'Antiquité et qui nous prouvent que autrefois, jusqu'en des temps très reculés, évidemment, les êtres humains ont éprouvé le besoin de soigner leurs dents. Vous savez que les Égyptiens, par exemple, utilisaient ce qu'on appelle le sonabou, l'ancêtre du dentifrice. C'était un mélange de cendre et d'argile pour assurer donc une meilleure hygiène. Quant à Avicenne, ce grand médecin persan du Moyen-Âge, il préconisait de se frotter la bouche avec une poudre à base d'écume de mer, de sel, de gypse, le gypse c'est une roche saline, et de coquilles d'escargot brûlées. C'est en Chine que l'on va découvrir pour la première fois la brosse à dents. Autant dire que le premier occidental à se brosser des dents a peut-être été Marco Polo. C'est la brosse avec le manche en ivoire ou en bois piqué de poils de sanglier, hein, ce qu'on connaît nous finalement. Son retour en Occident se fera dans le courant du Moyen-Âge, mais il faut attendre le 18e siècle pour qu'un voyageur ramène dans ses bagages ce nouvel objet. Et c'est à la cour de Louis XV que l'on se met vraiment à se brosser les dents. Donc quand je vous parlais de nos invalides de tout à l'heure, il est bien possible effectivement que les invalides se soient brossés les dents. En tout cas, ça devait faire partie de l'hygiène. En même temps, la plupart commençaient à être un peu âgés, évidemment, et vous savez qu'au XVIIe siècle, quand vous étiez vieux, vous n'aviez plus tellement de dents. Cette brosse a été considérée longtemps comme un peu agressive pour les gencives, peu hygiénique. Bah, il faut vous dire qu'évidemment, hein, vous imaginez quand on gardait des brosses à dents en poils de sanglier pendant longtemps. Moi, je me rappelle, étant petit, m'être encore brossé les dents avec des brosses à dents en poils de sanglier, entre parenthèses. La brosse à dents en poils synthétiques, c'est relativement récent. Alors, évidemment, aux États-Unis, c'est depuis la fin des années 30, disons depuis le milieu du 20e siècle, mais chez nous, ça n'est arrivé. La fibre synthétique nylon, elle n'est arrivée qu'un peu plus tard. Ah, c'est vrai que les Américains, avec leurs belles dents blanches, ont beaucoup servi de modèle dans cette affaire. Rappelez-vous, les GI, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avaient comme recommandation, parmi leurs instructions militaires, de se laver les dents deux fois par jour.